Et nous allons en faire une lecture qui nous servira de verset de référence pour ce message. Il se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 9. 1 Pierre 2, à partir du verset 9. Je laisse le temps d'ouvrir les Bibles. Il est écrit comme ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous, qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et nous lirons aussi ce passage du livre des Actes, chapitre 26, à partir du verset 16. Un passage qui nous enseigne ce que Jésus va dire à l'apôtre Paul lorsque il lui apparaît, vous savez, sur le chemin de Damas. La Bible nous dit dans une lumière plus brillante que le soleil lui-même. Actes, chapitre 26, verset 16. Jésus lui dit, « Lève-toi. » Et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparais. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Peut-être que certains cet après-midi ne le savent pas encore, mais la Bible nous enseigne qu'avant de rencontrer Jésus-Christ ce jour-là, l'apôtre Paul s'appelait Saul de Tarse. C'était un des plus grands persécuteurs de l'Église première. Cet homme passait beaucoup de temps à débusquer les chrétiens dans les villes parce que son désir était de les faire mettre en prison, et même souvent peut-être d'arriver à faire en sorte qu'ils puissent être exterminés. Et à la différence de beaucoup d'hommes aujourd'hui, Saul de Tarse, lui, savait qu'un Dieu existait. Il n'avait pas, lui, de doute dans son cœur concernant l'existence de Dieu. Et il n'avait pas non plus de doute concernant le fait qu'un Messie devait venir. Il connaissait d'ailleurs lui-même toutes les prophéties annoncées dans le Tanakh pourtant. Il ne pouvait pas concevoir que Jésus-Christ puisse être ce Messie que le peuple d'Israël attendait depuis tant d'années. Paul, ou Saul de Tarse à l'époque, était comme bloqué, emprisonné dans ce cercle fermé de sa religion et des coutumes, des choses qu'on lui avait inculquées dès son plus jeune âge. Et je dirais qu'à l'image de Paul, il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui laissent passer leur culture ou leur coutume avant toute autre chose dans leur vie. Mais en faisant cela, ils ne prennent pas le temps de se poser les bonnes questions. Ils ne prennent pas non plus le temps de trouver la vérité dans leur cœur. Jésus a dit quelque chose d'important dans Matthieu chapitre 7 et verset 7. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Il dit, cherchez et vous trouverez. Et il continue en disant, frappez et l'on vous ouvrira. Mais je vous le dis cet après-midi, si vous ne demandez pas, si vous ne frappez pas, et si vous ne cherchez pas, alors comment voulez-vous recevoir ou trouver quelque chose? Comment cela pourrait-il être possible? Seul celui qui cherche réellement de tout son cœur peut arriver à trouver, eh bien, ce qu'il cherche. Et là, nous parlons d'un trésor inestimable. Voilà pourquoi je veux que tu saches cet après-midi que Jésus te laisse encore l'opportunité de tout mettre de côté dans ta vie pour le rencontrer. Il est encore temps de laisser derrière toi tes coutumes, ta culture ou toutes les choses qui pourraient être là, polluer ton esprit, t'empêcher de réfléchir par toi-même. Afin que quoi? Eh bien, afin que tu puisses faire cette rencontre véritable et puissante avec le Christ, si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mon ami, qui que tu sois, quel que soit ton passé, tu dois comprendre que Jésus-Christ veut rentrer dans ta vie. Il est celui qui veut pardonner tes péchés. Il est celui qui veut faire de toi une nouvelle créature rachetée par son sang précieux, nous dit la Bible. Jésus est le seul Et je dis bien le seul qui soit capable de transformer ta vie aujourd'hui. Il est le seul qui soit capable de te donner la paix et la joie qui te manque cruellement dans ton cœur. De la même manière qu'il est le seul qui soit capable de guider tes pas et de sauver ton âme. D'ailleurs, il le dira lui-même dans l'évangile de Jean. Chapitre 14 et verset 6, il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il finira sa phrase en disant « Nul ne vient au Père que par moi ». Autrement dit, cela nous montre de manière très claire que personne n'ira dans la maison de Dieu s'il ne passe pas par Christ, parce que Christ est la seule porte d'accès. Et c'est quelque chose que nous devons garder dans notre esprit, éviter de faire comme le monde et le mettre de côté. L'apôtre Paul ne voulait pas croire que Jésus puisse être Dieu incarné. Pourtant, la Bible est formelle lorsqu'elle dit qu'il est totalement Dieu, mais également totalement homme, sans les péchés humains. En se faisant homme, en s'incarnant, Christ n'a pas pour autant cessé d'être Dieu, mais il s'est simplement dépouillé de ses attributs non moraux. Écoutez, il est facile aujourd'hui, et vous pouvez le constater autour de vous, il est très facile pour le monde d'arriver à reconnaître Jésus-Christ comme un homme qui a vécu sur la terre il y a un peu moins de 2000 ans. Tout le monde veut bien le reconnaître, même les scientifiques et les archéologues le confessent aujourd'hui. Mais il leur est difficile, voire impossible, de concevoir qu'il était aussi ce Dieu incarné dont l'humanité avait tant besoin. Et pourtant, sa nature divine est démontrée dans plusieurs références directes dans les évangiles et dans les épîtres. Prenons simplement Jean, évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, il est écrit, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et si nous allons regarder dans la première épître de Jean, chapitre 5 et verset 20, il est aussi écrit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné, écoutez bien, l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. » Et il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et je vous assure qu'on ne peut pas faire plus clair. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'allait découvrir Saul de Tarse sur ce chemin qu'il amenait à Damas pour tuer et pour capturer encore plus de chrétiens. Dans le livre des Actes, chapitre 26, verset 13, nous pouvons le lire. Regardez ce qu'il est écrit. « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus brillante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Celui qui ne pouvait accepter, mes frères et sœurs, mes amis, que Jésus soit Dieu, et encore moins qu'il soit ressuscité, le voit pourtant apparaître dans une éclatante lumière. Et la Bible précise, une lumière d'une pureté et d'une intensité incroyable. D'ailleurs, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 9, dira de cette lumière, « Quelle est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ?» Encore un verset que nous devons garder dans notre cœur. Et l'apôtre Paul qui, jusqu'à présent, je disais, marchait dans l'ombre, cet homme-là qui marchait et qui ne voyait pas la vérité, venait d'être éclairé et confondu par Jésus-Christ en personne. Mon ami, la rencontre que Paul a faite avec Jésus ce jour-là est la même que celle que j'ai faite il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et je tiens à te rappeler que cette rencontre-là, tu peux toi aussi la faire dès aujourd'hui, parce que Jésus-Christ, je le répète, est présent dans ce lieu. Il est là, au milieu de nous. Il est tout près de toi. Et ce qu'il voudrait, c'est que sa lumière vienne envahir ton être tout entier, afin de te faire à toi aussi passer de l'ombre à la lumière, de te faire passer des ténèbres à la foi et du pouvoir de Satan à la puissance de Dieu. C'est cela que Christ veut aujourd'hui. Alors, si tu veux recevoir cette lumière dans ta vie, Je dirais qu'il te suffit simplement d'ouvrir la porte de ton cœur et de placer ta foi en Jésus. Mon ami, rien d'autre ne te sera demandé parce que la Bible nous dit que son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa paix, sa joie, le salut et la restauration de ton âme ne s'achètent pas. Dieu le donne gratuitement à tous ceux qui choisissent librement, parce qu'on est libre, de se tourner vers Jésus. Vous savez, Jésus, il n'est pas simplement venu sur la terre pour se montrer aux hommes et pour enseigner que Dieu existe vraiment. Ce qu'il est venu faire est bien plus grand que cela. La Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Vous l'avez certainement déjà entendu pour la plupart. Et elle rajoute que tous les hommes ont péché et que tous ces hommes-là, c'est-à-dire nous tous, sont privés de la gloire de Dieu. Et elle conclut en disant, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Quand bien même nous nous croyons justes, il n'y en a pas. Et la Bible l'enseigne. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ voulait donner l'opportunité à tous les hommes de pouvoir être rachetés, pardonnés et sauvés. Il voulait être ce médiateur entre Dieu le Père et les hommes. Il voulait rétablir cette relation que nous avions perdue en Éden. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible nous dit qu'il a laissé son ciel de gloire. Cet endroit merveilleux où les anges le servaient, ils l'adoraient et il a tout laissé pour venir comme un simple homme sur cette terre. Il a tout laissé pour venir vivre dans ce monde-là sans lui ne jamais pécher. Il a tout laissé pour pouvoir porter sur lui les péchés et les maladies de l'humanité, mais également pour offrir volontairement sa vie sur une croix. Parce que telle était la rançon qu'il devait payer pour pouvoir libérer les hommes du péché, de la mort et de l'enfer. Eh oui, l'enfer existe, le paradis aussi, mais il y a aussi l'enfer. D'ailleurs, j'aimerais rajouter que Jésus est venu même en sachant qu'il devrait souffrir atrocement par la main des hommes qu'il était pourtant venu sauver. Quel amour immense il y a dans le cœur de Dieu. Imaginez-vous, il savait qu'il devrait souffrir pour nous, qui ne méritons rien, et pourtant il a choisi de le faire. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, l'apôtre Paul, c'est lui qui va écrire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, écoutez bien, jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. » La croix. Paul dira dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mon ami, Jésus-Christ est celui qui a été accusé à tort. Il est celui qui a été moqué, calomnié, frappé, humilié. On lui a volontairement arraché la barbe. On lui a craché dessus. Il a été flagellé au point que la Bible nous dit que pour plusieurs, il devenait un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. C'est dire le traitement qu'il a reçu. Et après ça, la Bible nous enseigne que les soldats l'ont revêtu d'un manteau de couleur pourpre parce qu'ils voulaient se moquer de lui. Ils voulaient se moquer de cette soi-disant royauté à laquelle ils ne croyaient pas, alors qu'il est pourtant le roi des rois. Ils lui ont mis sur lui. Et au lieu d'avoir une couronne d'or comme n'importe quel roi dans ce monde avait, notre Seigneur, lui, a reçu une couronne d'épines. On lui a présenté la croix sur laquelle il devait être crucifié parce qu'il devait la porter jusqu'au mont Golgotha. Et là, arrivé au mont Golgotha, c'est volontairement qu'il a donné ses mains afin qu'on lui cloue. Et les pieds ont été aussi cloués sur cette même croix avant d'être élevés au milieu de deux brigands. Et vous savez ce que Jésus avait dans son cœur à ce moment-là pour tous les hommes qui lui avaient fait tellement de mal. La Bible nous enseigne qu'à ce moment-là, il avait une prière d'amour qui disait « Père, pardonne-leur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est ce Jésus-là, ce Jésus rempli d'amour, même pour ceux qui l'ont persécuté, c'est ce Jésus-là qui veut rentrer dans ta vie aujourd'hui encore. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, il est écrit « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout ce qu'il a fait, mon ami, tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour, afin que par ce sacrifice parfait, quiconque de ce monde entier, quiconque aurait voulu placer sa foi en lui, ne périsse plus, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus a fait tout cela. Et Jésus veut te bénir cet après-midi. Jésus veut guérir ton âme. Il veut faire de toi, un enfant de Dieu. Jésus veut que toi aussi, tu passes de l'ombre à la lumière. Il veut que tu passes de la mort à la vie, de l'emprise de Satan à la puissance de Dieu. Seulement, comme je te l'ai déjà dit, il ne pourra le faire que si tu décides maintenant de le laisser rentrer dans ton cœur. Alors, même si ton cœur te condamne pour ce que tu as fait par le passé, même si ta famille et tes amis pensent que tu ne mérites pas d'être pardonné, je veux que tu saches que Jésus lui pense différemment et qu'il veut te serrer dans ses bras d'amour. Il veut te donner l'opportunité de devenir une nouvelle créature. C'est ça que Dieu veut cet après-midi. Et je prie pour que tu en sois conscient. Après avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul n'a jamais cessé de le servir et de proclamer sa parole à travers le monde entier. Il n'a jamais cessé de le faire, même si cela devait lui coûter de faire face à de terribles, terribles épreuves. Des épreuves qu'il nous révèle lui-même dans 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 24. Je veux vraiment vous les lire pour que vous compreniez. Regardez ce dont Paul a dû faire face pour la gloire de Dieu. Il est écrit « 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Et je suis forcé, mon ami, mes frères et sœurs, de constater que toutes ces épreuves ne l'ont jamais, jamais empêché de proclamer la vérité sur Dieu, sur sa venue sur la terre, sur son sacrifice parfait, sur sa résurrection et aussi sur le royaume à venir, mais surtout, surtout sur le chemin à emprunter pour pouvoir entrer dans ce royaume. Mes amis, si tout cela était faux, je pense que Paul n'aurait jamais pu endurer toutes ces épreuves. D'ailleurs, personne n'aurait pu le faire. Lequel d'entre nous serait capable de risquer sa vie, de risquer de mourir pour quelqu'un ou quelque chose qui n'existe pas? Dans sa première lettre qu'il fait aux Corinthiens, Paul va dire « Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Et il rajoutera « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, c'est-à-dire ceux du monde entier. » Paul prêchait Christ crucifié, c'est vrai, mais il prêchait aussi Christ ressuscité, parce que la Bible nous enseigne qu'il n'est pas simplement mort sur cette croix. Après la crucifixion, il a été placé dans un tombeau scellé par une gigantesque pierre qui devait être roulée par plusieurs soldats. Et comme les pharisiens et les romains avaient peur que quelqu'un ne vienne dérober le corps de Jésus, la Bible nous dit qu'ils ont posté des gardes armés devant ce tombeau. Seulement, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, il est écrit que le troisième jour, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et Salomé, vont arriver devant le tombeau. Et au verset 2, nous pouvons lire qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. » Et l'ange finira en disant, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. » Et contrairement à ce que le monde pense, contrairement à ce qu'il nous enseigne, à ce qu'il veut nous faire croire en se basant sur des théories et non pas sur des faits, je vous assure que Jésus-Christ est toujours vivant. Et si vous ne me croyez pas cet après-midi, alors je vous demanderai de m'expliquer comment est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui encore il y ait des millions de guérisons et de vies transformées dans le nom de Jésus. Comment expliquez-vous ces alcooliques qui rentrent dans une église et par le nom de Jésus qui sont instantanément délivrés? Mais nous pourrions dire la même chose de personnes qui se droguent, d'hommes violents, et de personnes malades, Jésus guérit encore aujourd'hui et dans le monde entier. Parce qu'en son nom, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se faire. La puissance de Dieu est contenue dans le nom de Jésus. Si Jésus est mort, alors comment peut-il agir dans le monde entier encore aujourd'hui? Comment a-t-il pu agir dans ma vie? Comment peut-il guider mes pas? Comment peut-il me parler? Comment a-t-il pu agir dans la vie de dizaines de personnes dans cette salle cet après-midi? Non, mon ami, il faut se rendre à l'évidence. Christ est vivant et il est présent à nos côtés à chaque moment de notre vie. La mort ne pouvait pas retenir le juste. Elle ne pouvait pas retenir celui qui n'avait jamais péché, mais celui qui s'est sacrifié volontairement pour nous sauver. Alors cet après-midi, accepte le fait que Jésus-Christ veut sauver ton âme. Accepte le fait qu'il veut te permettre de vivre même si tu meurs. Parce que c'est exactement cette phrase qu'il va dire à une femme qui s'appelait Marthe et qui venait de perdre son frère Lazare. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, il va dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il finit en disant à Marthe, « Crois-tu cela ?» Mon ami, c'est exactement cette même question qui t'est posée cet après-midi. Crois-tu cela ? Crois-tu ce que l'on vient de t'annoncer ? Crois-tu que toi aussi tu puisses passer de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie comme l'ont fait les personnes qui sont là devant aussi et qui vont se faire baptiser ? Mon ami, Dieu veut voir les hommes et les femmes du monde entier se tourner des ténèbres, de ce qui est sombre, de la tristesse, de ce qui nous tourmente, de ce qui nous oppresse, de toutes les mauvaises habitudes que nous avons vers ce qui est juste. Et c'est la raison pour laquelle il te dit encore aujourd'hui, tourne-toi vers moi. Il te demande tout simplement de te tourner des ténèbres à la lumière de Christ, parce qu'il est la lumière du monde. Il est ma lumière aujourd'hui, mais il est aussi cette lumière qui veut éclairer chacun de tes pas. Il veut t'accompagner dans cette vie que tu as sur cette terre, afin que toi aussi, tu puisses marcher sur ce chemin qui mène à la vie. Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, et c'est une promesse qu'il fait, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus-Christ est le seul, et je dis bien le seul, qui soit capable de chasser les ténèbres et de rompre l'obscurité qu'il y a autour de toi. Il est celui qui veut enlever tes doutes, tes craintes d'un avenir incertain. Il veut ôter de ton cœur la peur de la maladie ou de la mort, mais également, il veut enlever la tristesse ou la solitude que tu as peut-être encore cet après-midi dans ton cœur. Seulement, il ne pourra le faire que si tu décides de changer de direction pour te tourner vers lui. Alors, je te le dis une dernière fois cet après-midi, quel que soit ce que tu as fait auparavant, quel que soit l'état dans lequel se trouve ta vie, Dieu veut que tu te tournes vers lui parce que sa miséricorde et son pardon sont aussi pour toi. Te tourner vers Jésus est la seule façon que tu as d'obtenir le pardon de tes péchés. C'est la seule façon que tu as de commencer une vie nouvelle. En réalité, cela revient à faire un acte de foi et de repentance. Une repentance qui signifie tout simplement changer de direction et suivre le vrai chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et ça, eh bien, c'est un choix qui se fait dès aujourd'hui. C'est un choix qui, je le répète souvent dans des réunions d'évangélisation, se fait de notre vivant. Mais c'est bon aussi pour nous qui sommes chrétiens de l'entendre. Ce choix-là, nous devons le faire et garder ce choix dans notre cœur maintenant. Parce que dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est écrit, et c'est la Bible qui le dit, qu'il n'est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je tiens à finir ce message en disant qu'il est possible que tu fasses partie de ces personnes qui ont déjà connu Dieu, mais qui pour un temps se sont égarées du chemin de la vie, du chemin des commandements de Christ. Alors je tiens à te rappeler ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 7. Il dit que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Écoutez bien, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ou encore ce merveilleux verset d'Ésaïe 44, 22 qui dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Écoutez, nous sommes encore dans ce que nous appelons le temps de la grâce et nous avons toujours l'opportunité de nous tourner vers Jésus. Seulement, il ne faudrait pas oublier que la Bible dit aussi que viendra le jour où la porte de la grâce se refermera. Et là, les hommes seront tous face à leur choix. Alors, dès maintenant, mon ami ou mon frère, ma sœur, qui peut-être t'es éloigné du Seigneur depuis quelque temps, dès maintenant, je veux prier pour que tu puisses choisir la vie auprès de Christ, notre Sauveur. Je veux prier pour que tu puisses être en mesure de le recevoir dans ton cœur, parce que ce qu'il désire, c'est venir et faire de ton cœur sa demeure. Je veux que nous prenions un temps où nous allons prier. Seigneur mon Dieu, à combien je veux te dire merci, parce que tu